L'heure du journal avec Anne Focambert. Bonjour.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Aux États-Unis, un communiqué a avoir été publié hier soir par la Maison Blanche. Celle-ci peine à calmer la polémique suscitée par les réticences de Donald Trump à condamner des groupes d'extrême droite rassemblés ce week-end dans l'État de Virginie. Explication de Philippe Randet au début de ce journal.
C'est un tout petit morceau de territoire américain dans le Pacifique. Comment les habitants de l'île de Guam vivent la menace militaire de la Corée du Nord. Reportage d'Angélique Forger à suivre.
En Colombie, d'anciens combattants FARC vont rejoindre le programme de déminage humanitaire de ce pays. Explication de Marie-Ève de Teuf dans un instant.
Et puis nous irons à Rome avec Marie Duhamel. L'Italie se dit soulagée par la création d'une zone de recherche et de sauvetage en Méditerranée sous contrôle libyen.
Enfin, focus sur les logements étudiants. Les syndicats dénoncent des pénuries pour cette rentrée en dépit du plan 40 000 places du quinquennat précédent. Mais avant de développer les titres, nous retournons au Burkina Faso où l'assaut contre de présumés djihadistes à Ouagadougou est désormais terminé. Une attaque terroriste avait commencé hier soir vers 21h au restaurant Istanbul dans le centre-ville, restaurant fréquenté par des étrangers notamment. Attaque qui a fait au moins 17 morts et une dizaine de blessés selon le gouvernement burkinabé. Fanny Noireau, vous avez recueilli les dernières informations pour France Culture.
L'assaut s'est terminé il y a une heure maintenant. Deux terroristes ont été abattus par les forces de sécurité. Un assaut qui a duré plusieurs heures et qui a été rendu difficile par la mobilité des assaillants et qui n'arrêtaient pas de se déplacer à l'intérieur de l'immeuble et qui en sont même sortis à un moment donné pour finalement se retrancher et se battre jusqu'au bout. Ces deux assaillants sont jeunes. On ne dit pas pour le moment quel âge ils pourraient avoir. Mais on cherche s'ils ont éventuellement bénéficié de complices. Les témoins que nous avons rencontrés affirment n'avoir vu que deux personnes venir à moto et commencer à tirer sur la foule attablée au restaurant pour ensuite se retrancher dans l'immeuble. On attend maintenant des précisions sur les blessés et les victimes. On en est à au moins 17 morts et une dizaine de blessés de nationalités différentes, hein, parce que c'est un restaurant fréquenté par aussi bien les Burkinabés que par la population expatriée, internationale. Ce soir, s'il y avait aussi un anniversaire, car le restaurant, le soir, est fréquenté par des familles et des enfants, on craint donc que parmi ces victimes se trouvent de nombreux enfants.
Merci Fanny Noireau pour vos précisions depuis Ouagadougou. La France adresse ses condoléances aux familles des victimes. Le Quai d'Orsay qui demande par ailleurs aux ressortissants sur place de ne pas se rendre dans le centre-ville et de rassurer leurs proches. Au Kenya, après de nouveaux heurts hier soir dans les bidonvilles de la capitale, Raila Odinga appelle ses partisans à rester chez eux ce lundi en signe de deuil pour les 16 victimes des violences post-électorales. Le chef de l'opposition continue toutefois à contester les résultats de la présidentielle qui ont placé en tête le chef de l'État sortant, Kenyatta. Il devrait explicitement expliciter sa stratégie demain. L'Union européenne, l'ONU et Londres incitent Raila Odinga à faire valoir ses récriminations devant la justice. Aux États-Unis, après les violences de samedi entre groupes néo-nazis et contre manifestants dans les rues de Charlottesville, Donald Trump est plus que jamais pointé du doigt. Dans l'opposition et même dans son propre camp, on lui reproche d'avoir renvoyé les deux camps dos à dos sans s'opposer clairement à l'extrême droite. La Maison-Blanche a tenté d'apaiser les controverses hier soir. Ce matin, Mike Pence, le vice-président, déclare aussi que les États-Unis n'ont pas de tolérance pour la haine et la violence. Mais les divisions sont profondes dans le pays. Philippe Randet.
C'était samedi après-midi dans les rues de Charlottesville. C'est la faute de Trump, ça c'est l'Amérique de Trump, crie un manifestant antifasciste, le visage en sang. De nombreux habitants de la petite ville de Virginie n'hésitent pas à le répéter. Les suprémacistes blancs ont été galvanisés par le président américain. Donald Trump, qui a dans son entourage des conseillers qui soutiennent ce type d'idéologie, il a à plusieurs reprises refusé de prendre clairement ses distances avec certains des leaders de l'extrême droite. Michael Signer est le maire démocrate de Charlottesville. Il a fait un choix pendant sa campagne présidentielle ainsi que les gens autour de lui de jouer avec nos pires préjugés. Et je pense que ce qui s'est passé ce week-end résulte de ces choix-là. Ces groupes extrémistes sont sortis de l'ombre parce qu'ils ont été légitimés pendant la campagne présidentielle. Cela peut et doit cesser maintenant. Et la Maison-Blanche a tenté de rectifier le tir. Un porte-parole a expliqué hier que, bien sûr, Donald Trump condamne toutes les formes de violence, y compris celle des suprémacistes blancs. Iran, mais plusieurs sénateurs républicains ont demandé à Donald Trump de condamner en personne ces groupuscules d'extrême droite. C'est le cas de Marco Rubio, c'est aussi le cas du sénateur du Colorado Cory Gardner, qui a demandé au 45e président des États-Unis, je cite, « de nommer le mal ».
Un correspondant signé Philippe Randé. C'est un bout de territoire américain de l'archipel des Mariannes. L'île de Guam est depuis plusieurs jours au cœur de la guerre que se livrent à distance la Corée du Nord et les États-Unis. Guam, qui abrite deux bases militaires, est un poste stratégique des Américains dans le Pacifique alors que le régime de Pyongyang en a fait sa cible. Des frappes pourraient avoir lieu tout prochainement si l'on en croit la propagande nord-coréenne. Notre correspondante Angélique Forger est allée à la rencontre des habitants de cette île.
Assis sur sa serviette, Tony San Nicolas observe les eaux du Pacifique. Cet habitant de l'île croit en la possibilité d'une attaque, mais refuse de céder à la panique.
La Corée du Nord est prête. Elle est prête à lancer des missiles n'importe où. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Cependant, mes petites habitudes n'ont pas changé. Je suis sorti de chez moi pour profiter du beau temps. C'est une journée magnifique. Il y a du soleil, l'océan me donne envie d'aller me baigner.
À Guam, la population est habituée aux typhons, aux tremblements de terre et aux alertes au tsunami. Cette menace nord-coréenne n'est pour elle qu'un danger supplémentaire. Sur son stand de location de matériel de plongée, Gail, 27 ans, a même le sourire, persuadé que cette menace est un bon coup de publicité pour son île.
J'ai de la famille et des amis aux États-Unis. Ils me demandent tout le temps, Guam, c'est où ? Maintenant, grâce à Kim Jong-un, on devient célèbre.
Pourtant, tous ici le savent. Si la Corée du Nord lance un missile, il ne lui faudra que 14 minutes pour atteindre l'île. Les habitants comptent beaucoup sur le bouclier antimissile déployé par l'armée américaine pour les protéger en cas d'attaque.
Un reportage d'Angélique Forger. En Inde, conséquence de pluies torrentielles dans le nord du pays, près de 50 personnes sont mortes dans un glissement de terrain de l'état de l'Himachal Pradesh. Et puis toujours dans le nord du pays, c'est un scandale qui prend de l'ampleur. Plus d'une soixantaine d'enfants, dont de nombreux nourrissons, sont décédés dans un hôpital public de l'Uttar Pradesh. Les médias et les proches des victimes mettent en cause une pénurie d'oxygène, ce que nient les autorités. Les précisions de Clémence Després, la correspondante de RFI à New Delhi.
La colère et l'indignation montent en Inde. Depuis le 7 août, plus d'une soixantaine d'enfants sont morts dans des conditions troubles dans un hôpital public de Gorakhpur en Uttar Pradesh. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir alors que la police locale a déclaré dimanche à l'agence France Presse que 11 autres enfants étaient morts samedi. Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, s'est rendu sur place. Pour lui, les enfants sont morts d'encéphalite. Rien à voir donc avec la pénurie d'oxygène qu'a connue cet hôpital jeudi où en une seule journée, 23 nourrissons ont trouvé la mort. Les familles des victimes contestent vivement la version des autorités et font état du chaos dans lequel se trouvait l'établissement lorsque les patients ont commencé à manquer d'oxygène. Selon les médias indiens, la société qui fournissait les bonbonnes aurait mis fin à ses services, l'hôpital n'ayant pas payé ses factures depuis plusieurs mois. Une enquête a été ouverte et les autorités ont promis que les coupables ne seraient pas épargnés. Le directeur de l'hôpital a d'ores et déjà été suspendu et le responsable du service de pédiatrie limogé. Mais l'opposition dénonce pour sa part les négligences du gouvernement régional et réclame la démission de Yogi Adityanath, ce proche allié du Premier ministre Narendra Modi, qui suivrait lui-même la situation de très près.
Clémence Després, la correspondante de RFI à New Delhi. En Colombie, le président Dos Santos demande au vice-président américain en visite dans le pays d'exclure une intervention militaire au Venezuela. Donald Trump avait en effet évoqué cette option vendredi dernier. Et puis toujours en Colombie, les guérillos des FARC vont désormais participer aux opérations de déminage en cours. 7000 combattants ont rendu les armes depuis la signature de l'accord de paix de décembre dernier. Un millier d'entre eux vont rejoindre le programme Humanissimo DH, DH pour déminage humanitaire. La Colombie est en effet le pays le plus miné au monde après l'Afghanistan. À Bogota, c'est une correspondance de Marie-Ève de Teuf.
Une mine antipersonnelle ne coûte pas cher et elle reste active pendant des dizaines d'années. Impossible évidemment de savoir combien il y en a en Colombie. Mais dans ce pays grand comme deux fois la France où le conflit armé a duré un demi-siècle, il y en a beaucoup. Plusieurs organisations participent déjà au déminage aux côtés de l'armée. La grande nouveauté, c'est la prochaine arrivée sur le terrain de ces guérilleros démobilisés. Une expérience pilote avait été menée en 2015, dès avant la signature de la paix. Succès total, les FARC ont été très efficaces, c'est l'armée colombienne qui le dit. La tâche reste titanique. Les guérilleros n'ont pas posé toutes les mines du pays et ils n'ont pas la carte des mines posée par leur organisation. mais ils connaissent bien le terrain et la logique de la guerre. Au-delà de son efficacité technique, la collaboration des FARC a une dimension politique. Les guérilleros qui vont participer au déminage recevront d'abord une formation, puis un salaire. Le déminage, c'est aussi une stratégie de réinsertion des combattants à la vie civile.
Les explications à Bogota de Marie-Ève Deteuf.
8h10, la suite du journal. En Méditerranée, il n'y a plus qu'un seul bateau d'aide aux migrants qui patrouille au large de la Libye.
Et il s'agit de l'Aquarius, affrété par la section néerlandaise de Médecins Sans Frontières et l'ONG SOS Méditerranée. Tripoli vient en effet de créer une nouvelle zone de recherche et de sauvetage sous sa responsabilité directe. Décision saluée par Rome, Marie Duhamel.
Les navires étrangers sont désormais interdits de pénétrer en eau territoriale libyenne et même au-delà jusqu'à 97 miles des côtes. Tripoli a en effet créé sa propre zone de recherche et de sauvetage et ses gardes-côtes ont déjà commencé à patrouiller, ramenant sur la terre ferme libyenne plus de 250 migrants ces derniers jours. Le chef de la diplomatie italienne se félicite de ce rééquilibrage en cours. Certains espèrent même à Rome que Tripoli redevienne le gendarme de la Méditerranée, rôle joué jadis par Muammar Kadhafi. L'Italie veut en tout cas limiter le nombre d'arrivées sur ses côtes et pour ce faire, elle a commencé par encadrer le travail des ONG humanitaires engagées en Méditerranée. Rome va également aider Tripoli. Un navire logistique et un patrouilleur italien seront envoyés dans les eaux libyennes pour aider les gardes-côtes libyens. La semaine dernière, ces derniers ont menacé mitraillette en main un bateau humanitaire poussant trois ONG, MSF, Save the Children et Sea Eyes, à suspendre ce week-end de leurs activités. Ces zones n'appartiennent plus à personne sinon à la Libye, soutient Angelo Alfano. Pour éviter les morts en mer ou sur le sol libyen, le ministre italien des Affaires étrangères estime qu'il faut empêcher les départs, ce qui permettra aussi de lutter contre les passeurs, mais également financer les agences de l'ONU pour qu'elles garantissent dans les camps libyens des conditions de vie dignes aux migrants, financer l'ONU et pourquoi pas le maréchal Haftar, acteur incontournable de la politique libyenne, il accepterait, moyennant finances, de bloquer la frontière sud de son pays aux migrants.
Correspondance à Rome de Marie Duhamel. En France, les étudiants ont commencé leurs inscriptions administratives, ce qui se double pour certains de l'obligation de se trouver un logement. Problème, les places manquent dans les résidences universitaires, Maxime Deps.
Le gouvernement précédent avait engagé un plan 40 000, plan qui visait à garantir la construction de 40 000 nouvelles places avant la fin du quinquennat. L'objectif a été atteint, assure-t-on dans l'entourage de l'ancienne ministre de l'Éducation, avec, c'est vrai, un peu de retard. Plusieurs logements tardent à sortir de terre, mais tout sera réglé, promis, d'ici la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'il en faudra encore de ces logements. La première organisation étudiante, la FAGE, en demande 100 000 de plus. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron en proposait, lui, 60 000. Si ça se fait, ce sera déjà pas mal, répond la FAGE. Mais pour l'instant, aucune annonce de fait, rien à l'horizon. Et pourtant, le temps presse. D'ici 3 ans, le cap des 3 millions d'étudiants sera franchi. Les enfants issus du baby-boom vont débarquer en masse sur les bancs de la fac. Certains investisseurs l'ont d'ailleurs bien compris, les résidences privées type Estudine fleurissent un peu partout, à Toulouse, à Paris. Intéressant, à condition toutefois que les choses soient un peu cadrées, préviennent les syndicats étudiants. Les loyers dans ces résidences, dans la capitale, avoisinent parfois les 900 euros.
Précision de Maxime Deps. Enfin, au Canada, le nombre exceptionnel de baleines noires retrouvées mortes cette année pourrait avoir des causes environnementales. Pas moins de 11 cadavres de ces cétacés ont été repérés sur les côtes américaines de l'Atlantique, mais aussi dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui est assez inhabituel. Le ministère des Pêches et des Océans est en train de prendre des mesures. Explication de Marie-France Abastado.
L'aire de répartition des baleines noires de l'Atlantique Nord va normalement de la Floride à la côte est canadienne. Mais récemment, elles se sont aventurées dans le golfe du Saint-Laurent où aucune mesure de protection n'avait encore été prise. En vertu de la loi sur les espèces en péril, le gouvernement canadien a l'obligation de tout mettre en œuvre pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord. C'est ce que rappelle Robert Michaud, directeur du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins à Tadoussac, au Québec.
C'est comme si on était pris avec des réfugiés climatiques qui viennent juste d'arriver dans un nouveau territoire. Et là, notre véritable défi sera de faire de la place pour ces animaux-là, d'apprendre à cohabiter avec elles. Un véritable défi pour nous.
On pense beaucoup aux bateaux de pêcheurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire différemment pour que la vie de ces baleines ne soit pas mise en péril?
Bien, sur la côte est canadienne comme américaine, on avait déjà mis en place plusieurs méthodes, plusieurs stratégies de conservation. Dans les lignes de trafic maritime, par exemple, il y a des zones de vigilance accrues, il y a des zones de déviation de la route des grands cargos. Pour les pêcheries, on ferme des zones temporellement, spatialement, plein de choses qui peuvent être tentées. Certaines l'ont été tentées dans les secteurs de distribution habituelle. Maintenant, il faudra mettre en place ces stratégies-là dans le Saint-Laurent. Le temps joue contre nous, alors il faudra être créatif.
C'est pourquoi le ministère des Pêches et des Océans vient d'annoncer que les navires de plus de 20 mètres auront dorénavant l'obligation de ne pas dépasser une vitesse de 10 nœuds. Cette mesure est temporaire et sera levée lorsque les baleines auront quitté la région. Les navires qui ne se conformeront pas à cette nouvelle directive pourraient être passibles d'une amende de 25 000 $.
Explication signée Marie-France Abastado. Le temps de ce lundi, c'est le retour du soleil partout en France avec toutefois quelques passages nuageux au nord de la Loire et les températures actuellement de 19 à Cherbourg à 27 à Marseille. Principale information de ce journal, la fin de l'assaut contre les terroristes qui ont pris pour cible hier soir le restaurant Istanbul à Ouagadougou au Burkina Faso. Au moins 17 morts et 10 blessés à l'issue de cette attaque.